Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Will of MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Will of Cinéma. À Will of MDR, on aime analyser et discuter les comédies françaises. Et aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial, on va parler de notre amour pour un acteur qui nous a quittés mais qui est éternel. Et bien sûr, je parle de Jean-Pierre Bacri, qui est disparu il y a quelques jours et pourtant dont l'aura n'a jamais cessé dans toutes nos émissions. Bacri, c'était un peu ce comédien sûr, c'est ce gars de qualité. On savait qu'en allant voir un film avec Bacri, on savait à quoi s'attendre. On savait qu'il allait rayonner, que même dans les rôles parfois ingrats qu'il a eu, il a toujours réussi à faire briller le matériel qu'il avait. Et en même temps, et c'est ça qui est assez intéressant quand on repasse sa filmo, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gras, quoi. Il a vraiment choisi ses rôles, il a vraiment bien choisi, et on va en parler aujourd'hui avec mes deux chroniqueurs, certes distanciés, mais aussi passionnés que moi de Jean-Pierre Bacri. Perrine Kenson, c'est toi dont je parle.
Salut, hashtag comme Bacri.
Et Yerim Sarr.
Salut.
Et écoute, Perrine, hashtag comme Bacri, Perrine, qu'est-ce qui t'évoque, toi, Bacri? Qu'est-ce que ça t'évoque? Tu es libre de dire ce que tu veux, voilà.
Il y a une évidence que tout le monde souligne depuis quelques jours, évidemment, dans les hommages. On voit toujours le titre, le râleur gentil ou ce genre de choses. Donc évidemment, le râlage, c'est la marque de fabrique de Jean-Pierre Bacri. C'est même devenu un art chez Jean-Pierre Bacri de savoir râler comme Bacri. Et au-delà de ça, moi, ce qui me fascine dans cette incarnation qu'il avait, cette espèce de visage pas aimable, cette resting bitch face vivante qu'il était, en fait, on dit toujours, par exemple, que Louis de Funès, c'est un peu le portrait du français. Voilà, c'est le portrait du français typique, c'est Louis de Funès qui passe son temps à gueuler et machin. Mais moi, je trouve que en fait, maintenant, le français, c'est vraiment Jean-Pierre Bacri. C'est-à-dire, c'est cette idée de quelqu'un qui passe son temps à râler, qui passe son temps à être que tout le saoule, mais prodigieusement, et qui en même temps, c'est la genre de personne qui va faire genre, oh, tu fais chier, et la seconde d'après va dire bon, viens, fais-moi voir, je vais t'aider, quoi. Et c'est un mélange de, on exprime le mécontentement en premier, mais au bout du compte, il y a quand même un cœur qui bat, il y a quand même beaucoup de tendresse derrière tout ça, et cette capacité à exprimer en premier ce qui nous saoule, mais qui cache derrière une énorme bonté, moi c'est ce que je retiens évidemment de Jean-Pierre Bacri, que ce soit dans son jeu, dans son physique, mais et aussi dans le choix de ses rôles, évidemment.
Et toi, Yerim, qu'est-ce qui t'évoque, Bacri? Parce que on peut le dire, Bacri, il a une aura évidemment comme acteur, mais aussi comme personnalité, parce que c'est un mec qu'on voyait sur. Il disait détester faire la promo, et pourtant il allait dans tous les plateaux pour presque dégobiller une mauvaise humeur assez drôle, en fait.
Enfin, sauf les, il faisait les plateaux qui étaient quand même vachement identifiés ciné ou culture, en skippant totalement tout ce qui était trop people. Je l'ai jamais vu, ni lui, ni Anne Jaoui, d'ailleurs. D'où un peu leur regard très, très ironique sur les profils à l'hardisson dans certains films, tu vois. Mais sinon, oui, effectivement, il faisait quand même le taf pour défendre ses films. Oui, c'était un peu le côté... c'est une expression à la con, mais c'était un peu, tu sais, l'élément perturbateur, tu vois, le mec qui pousse un coup de gueule salutaire, mais qui est pas méchant ou quoi, mais qui va te dire... qui va un peu mettre les pieds dans le plat là où c'était des ambiances un peu plus feutrées et tout à l'époque. Et c'était surtout que j'avais l'impression, en tout cas, enfin j'ai toujours eu l'impression qu'il essayait en tout cas d'appliquer son exigence en fait sur le monde extérieur à lui-même aussi. C'est-à-dire que je me rappelle qu'au tout début des années 2000, il me semble, il fréquentait pas mal Jamel et puis les deux s'en cachaient pas, tu vois, ils s'entendaient très bien. Et donc,
ils ont même coécrit un film ensemble, en fait.
Alors ouais, c'est à ça que je voulais venir, c'est qu'en fait, on les pressait de le faire, et ils ont commencé à faire un premier jet sur, ça devait être un film dit de banlieue ou sur la banlieue. Et en fait, ils se sont rendus compte que ça marchait pas, et donc bien plus tard, ils ont fait Parlez-moi de la pluie, qui n'a rien à voir. Et tu vois, ce truc juste de se dire, ouais, ok, je suis pote avec Jamel, donc ça ferait forcément un super score de sortir le film vite, mais juste s'apercevoir que ça connaît pas, en tout cas pas à ses exigences, et de dire, bah, tu sais quoi, prenons vraiment notre temps, faisons un film que nous, au moins, on estime de qualité, plutôt que de faire un peu une passe téléphonée. Tu vois, c'était un peu ça aussi que je trouve malheureusement assez rare, tu vois, un certain niveau de notoriété dans le cinéma français, quoi. Tu vois, c'est, des fois, c'est presque des automatismes. C'est là, tu t'entends bien avec un tel, vas-y, fais un film, puis un deuxième, puis un troisième, etc.
Donc, c'est des histoires de bande.
C'est des histoires de bande. Mais lui, en fait, tu sentais que ça allait pas prévaloir, ni même se superposer sa demande de qualité.
C'est une quête de qualité.
Exactement. Donc, ouais, il y avait ça. Puis après, évidemment, je pense qu'on va en parler, mais le côté scénariste et surtout dialoguiste qui est complètement fou, quoi.
Alors, c'est à ça que je vais en parler. Perrine, tu l'as dit sans le vouloir, tu as prononcé le mot d'un de ses films, tu as dit « Au bout du compte
oh ». Oui.
Au bout du compte, c'est l'un des films qu'il a coécrit avec Agnès Jaoui. On peut le dire, c'est... Bakri, c'était un visage qui a presque un second couteau du cinéma français pendant les années 80. Il avait cette tête... très très identifiable,
la resting beach face
comme tu dis. Oui, c'est vraiment ça, enfin je veux dire même quand on le voyait chez Luc Besson, quoi. Et tout d'un coup je me gourre pas, hein, il était bien chez
il était dans Subway.
Il avait cette tête de second rôle, et puis là il s'est vraiment trouvé il s'est découvert auteur, en fait. Je sais pas s'il s'est découvert, mais en tout cas, il est devenu par la passion des mots, par la passion. C'est un mec qui aimait les textes, c'est un mec qui aimait les classiques du théâtre. Et de fil en aiguille, il a créé son univers, et il a trouvé son double cinématographique, c'est Agnès Jaoui. Mmh. Et même si c'est elle qui tenait la caméra, on peut dire que tous les films d'Agnès Jaoui ont cette empreinte mélancolique sur la vie, enfin cette empreinte tragicomique. Je pense évidemment à Un air de famille, mais Au goût des autres aussi, qui sont des films drôles, mais aussi bouleversants à leur manière. Est-ce que toi, ça te parle, cette vague de cinéma français? Je pense à toi, Perrine, mais à toi aussi, Yérim. Je veux juste dire un truc, c'est que je pense personnellement que Le goût des autres est un film qui a vraiment changé ma vision du cinéma français. Quand je l'ai vu, j'ai vraiment une relation très particulière avec ce film que j'ai adoré. Vraiment, je le trouve bouleversant en tout point. Je trouve que c'est un film extraordinaire. Et je l'ai offert à ma mère qui, elle voulait pas entendre parler de cinéma français de sa vie. Elle ne croyait qu'en... le truc le plus français qu'elle ait vu, c'était Jean-Claude Van Damme, quoi.
Donc un Belge.
Donc à Belge, ouais. Tu vois, elle était plutôt Chuck Norris, okay. Tu vois, elle aimait les films et Clint Eastwood. Et je lui ai offert Le goût des autres, et elle aussi, ça l'a changé. J'ai senti que ça a changé quelque chose en elle. Et elle l'adorait parce que c'est un film drôle, mais c'est aussi parce que c'est un film qui l'a bouleversé. Ça a touché quelque chose en elle aussi. Et je crois que c'est ça la force de Bakri, c'est qu'il a un truc, il arrive à toucher à une vérité des gens, et je crois que c'est ça la force. Je sais pas si ça te parle, Perrine,
c'est bien de parler du goût des autres, parce que ça paraît une évidence quand on parle de Bakri de parler du goût des autres, mais parce que c'est un film qui pour moi est comme tu le disais, c'est un socle pour moi, ce film. C'est quelque chose qui, en fait, j'ai découvert quelque chose. Déjà, je l'ai vu assez jeune, Le goût des autres. Il date de 2000. J'ai dû le voir, ouais, je devais avoir 12 ans. C'était quand même assez jeune. Et en fait, j'ai découvert comment on pouvait autant jouer sur les mots, comment on pouvait autant s'amuser, et comment les mots pouvaient dire et ne pas dire ce que ressentaient les personnages, comment il arrivait à jouer sur à la fois un dialogue badin, terriblement trivial et faire dire quelque chose de la tristesse ou du désespoir de ces personnages d'une quête de sens chez ces personnages. Et ce que je trouve très beau, c'est ce qui m'a fait découvrir, et je vois ailleurs dans d'autres pays, dans d'autres endroits. Je pense à une Phoebe Waller-Bridge quand elle fait Fleabag ou ce genre de choses en série, une britannique. Et ben chez lui, je découvre une sorte de tristesse badine qui me bouleverse. Et c'est vrai que cette capacité à ciseler les dialogues pour faire dire quelque chose à ces personnages que leurs personnages se refusent d'admettre à eux-mêmes, je trouve que faut avoir un sacré niveau d'écriture et de connaissance de la psychologie en fait des personnages. Et tout ça, il le doit aussi à Agnès Jaoui, il le dit lui-même, mais c'est vrai que c'est ce parfait mélange entre les deux qui arrive à toucher à quelque chose de complètement infime et de, comment dire, d'impalpable, en fait. Il y a quelque chose d'impalpable dans les films de Bakri, en fait, qu'il écrit, je veux dire.
Et toi, Yérim, est-ce que ça te parle, ce Cinoche, ou est-ce que t'es plus univers, parce qu'il a été quand même aussi... il a participé à Didier, il a clairement eu son mot à dire dans Astérix et Cléopâtre. Est-ce que toi, ça te parle, le ciné de Jaoui
Bakri? Ouais. En fait, alors clairement, j'ai pas découvert tous les films dans l'ordre chronologique. Donc, je sais plus, je crois...
C'était aussi une manière de voir les meilleurs, hein, comme ça, hein, parce que vraiment, j'ai envie d'insister que Le Goût des Autres, je pense que c'est vraiment leur
surtout qu'en plus, je crois que Le Goût des Autres, c'est aussi leur premier où c'est elle qui a la caméra, parce que avant, c'était leur pote, en fait, qui filme. Souvent, ouais. C'était Sam Carman, Clapiche, etc. Et Le Goût des Autres, c'est vrai. Et puis surtout, le gap qui est franchi, c'est que les Cuisine et Dépendance, par exemple, ou Un air de famille, même si c'est vraiment parfait, c'est du théâtre filmé, en fait. Tu sens encore que c'est quand même des gens qui...
À l'unité de lieu, c'est ça, tu vois.
Tu sens encore que c'est quand même des gens qui sont vachement théâtre dans leur manière de procéder et tout. Tandis que Le Goût des Autres, ils ont multiplié les scènes en extérieur. Enfin, tu vois, t'as quand même... Ça repose totalement sur les dialogues et les relations entre les personnages. Mais il y a cette volonté d'ouvrir, en fait, d'aller vers autre chose. Écoute, non, moi ça me parle parce que j'apprécie toujours quand un dialogue est vraiment ciselé. Je pense que ça aurait été complètement anachronique de les qualifier comme ça à l'époque, mais en fait c'est des gens, je pense qu'ils le faisaient pas exprès, mais pratiquement, toutes les cinq phrases, t'as une punchline que tu peux ressortir, en fait. C'est-à-dire t'as vraiment un truc qui cerne soit une situation, soit un personnage. Et effectivement, pour revenir à lui en particulier, là où il était quand même très très fort, c'est qu'il arrive à passer, mais vraiment en une réplique, quoi, d'une à l'autre, d'une phrase à l'autre, en un truc qui est très très sec, très très énervé, ou alors très très salaud parfois quand il parle à d'autres personnages. La réplique suivante, le mec devient ultra mélancolique et presque triste à en crever. Enfin, je sais pas, moi j'ai un truc en tête où c'est la relation entre son personnage et celui d'Agnès Jaoui, justement, dans Cuisine et Dépendance. Et donc, à un moment, donc, il est là à juger tout le monde, et elle lui dit, mais de manière plutôt gentille, c'est pas trop fatigant d'être toujours tout seul en haut de ton piédestal. Et il me semble qu'il la regarde en lui disant, ouais, mais t'aurais pu y être avec moi. Et d'un coup, tu vois, tu tombes dans un truc qui est super triste, parce qu'évidemment, donc les persos ont été ensemble, on le comprend, ne le sont plus du tout, et enfin, il y a beaucoup de rancœur, etc. Et ils ont multiplié, en fait, cet art-là. C'est ça qui était assez drôle. Alors, j'ai pas retrouvé l'émission parce que ça date de la sortie du Goût des Autres. J'avais entendu, je suis pas sûr, c'était potentiellement Le Masque et la Plume, mais ils avaient invité, en fait, Agnès Jaoui et un autre réalisateur. Je ne sais plus s'il était français ou belge. Et en fait, déjà, Agnès Jaoui avait une anecdote qui était assez géniale, c'est qu'ils avaient pu présenter Le Goût des Autres à l'étranger, notamment aux États-Unis, puisqu'ils avaient été quand même jusqu'à l'Oscar du meilleur film étranger, en tout cas en nomination, je ne sais plus s'ils avaient eu la récompense. Mais bref, donc ils étaient là-bas, et il y a quelqu'un qui vient la voir et qui leur dit en gros, « Ah, c'est cool, c'est comme Woody Allen, sauf que lui, c'est drôle. » Et en gros, c'est un truc qui te fait comprendre que ouais, je suis d'accord que c'est peut-être pas c'est pas la bonne humeur incarnée, c'est peut-être pas accessible à tout le monde, mais quand t'es vraiment à fond, justement, c'est un peu le même principe que le sucré salé qui est plus sucré que le sucré sucré, tu vois. Ben là, eux, c'est un peu ça, et lui, particulièrement, c'était beaucoup ça, c'est-à-dire cette espèce de mélange où il est toujours sur un équilibre super fin entre le mec qui pourrait être détestable mais qui le sera jamais, et le mec qui pourrait être vraiment juste dépressif et qui attire la pitié mais qui le sera jamais vraiment non plus, tu vois. Et donc ouais, pour moi, c'était un peu ça.
Tu me fais penser quand même à une de mes... Ce basculement assez sensible chez lui, à un de mes passages préférés, et même de mes répliques préférées. C'est même pas la réplique, c'est même pas pour la qualité d'écriture, mais c'est pour la qualité de la manière dont il le sort. C'est ce moment où il est amoureux d'Anne Alvaro, enfin du personnage incarné par Anne Alvaro. Et au bout d'un moment, elle trouve qu'il en fait trop et tout ça. Et à un moment, il achète des tableaux et dit « mais fallait pas acheter ces tableaux ». Et lui, il se sent vexé parce qu'il a l'impression d'avoir été pris pour un con. Ce que tout le monde pense, parce que tout le monde le prend pour un plouc. Ouais. Tout le monde le prend pour un débile et pour un connard. Et il le joue parfaitement, mais il le joue de cette manière que personne, qu'il y a tout le monde qui le sait sauf lui, quoi. Et c'est parfaitement cohérent. Et quand Anne Alvaro, elle lui dit non, faut pas faire ça. Et lui, il dit mais tu crois que j'ai acheté ce tableau pour te plaire ou quelque chose comme ça. Et là, il lui dit je l'ai acheté par goût, par goût. Et puis et la manière dont il le sort à chaque fois.
Parce qu'en fait, il fait une question fermée. Il lui dit vous avez jamais pensé que ça aurait pu être par goût. Il lui dit comme ça. Ouais,
voilà. Exactement. C'est une perfection, quoi. Et
c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est toujours presque au corps défendant des personnages, en fait. C'est-à-dire que c'est quand ces personnages sont un peu acculés, ils finissent par dire enfin ce qu'ils ne voulaient absolument pas révéler auparavant, en fait. Il y a quelque chose. Je trouve que c'est presque magique de savoir aller retirer ça chez les gens. Et c'est là où, en fait, il s'approche au plus près de la réalité de tout le monde. C'est assez rigolo, ton anecdote sur l'anecdote de Jaoui, par rapport aux États-Unis et à Woody Allen. C'est parce que il y a aussi un truc, ce que je disais tout à l'heure sur l'idée que c'est l'incarnation du français. L'humour a quand même parfois un peu une nationalité. On ne rit pas des mêmes choses et on ne rit pas de la même manière partout. Et je pense que cette espèce de subtilité là et cette manière de vouloir s'enterrer sous des tonnes de couches pour ne pas paraître ou pour paraître autre chose que ce qu'on est réellement, c'est terriblement français aussi de ne surtout pas être trop honnête, trop sensible et je trouve qu'il y a quelque chose qu'il arrive à maîtriser qui est typiquement purement c'est l'étendard français parfait chez Bacri. Il maîtrise un truc presque national, si je devais faire un peu du nationalisme de cinéma. Mais il y a un truc là-dedans.
Je sais pas si j'en appelle à votre cinéphilie, mais pour moi, le couple, enfin, alors ce même, le couple Agnès Jaoui et Bacri, c'était, pour moi, on arrivait à Mike Lee, quoi. C'était un truc de capturer la vérité des gens au plus proche. Alors, je dis beaucoup de bien du goût des autres. Je suis vraiment. À chaque fois, je trouve que c'est ça aussi le paradoxe du couple. C'est à chaque fois, il faisait un peu le même film. Et forcément, à chaque fois, il devait affronter un peu le souvenir qu'on a du précédent. Et c'était toujours un petit peu compliqué. Qu'est-ce que vous avez pensé de leur dernier long-métrage ensemble qui était presque une charge anti-Ardisson?
C'était Place Publique, ça.
C'était Place Publique, ouais.
Ouais.
Parce que j'essaie de tracer un arc de carrière de goût des autres à Place Publique. C'est il y a toute une évolution de cinéma qui se sont fait ensemble. Hein. Ils ont fait ça ensemble. Et je me suis toujours posé la question de comment la trajectoire décrite par leur cinéma. Et en tout cas, je la vois clairement dans le goût des autres et dans Place Publique. J'ai été perplexe avec Place Publique.
Bah déjà, il y a un truc, c'est que vas-y.
Non,
Il y a un truc, c'est que même si il y a le côté répétition avec des éléments qui ont jamais bougé en fait dans leur cinéma, en tout cas dans leur écriture,
il y a toujours les puissants.
Mais c'est que ils avaient quand même l'intelligence de pas non plus s'attribuer exactement le même rôle à chaque fois. C'est-à-dire que dans Cuisine et Dépendance, son profil est pas du tout le même, par exemple, que dans Le Goût des Autres. qui est déjà différent vu que c'est quand même un gros patron de province, donc c'est pas non plus le petit barman d'un air de famille. Et dans Place Publique, c'est effectivement une sorte de parodie amusée de Thierry Ardisson jusqu'aux vêtements et à la moumoune d'ailleurs.
Et les narcotiques.
Ah oui, et le, on va dire le l'aura, le folklore Ardisson. Et donc, en gros, pour moi, c'était aussi sur ça qu'il arrivait à bouger. Et justement, c'est là que tu sentais que, à mon avis, il a dû dire non à pas mal de propositions qui voulaient juste l'utiliser comme, bon, ben, ça va être le mec juste bougon, mais sans rien derrière, sans la profondeur que t'as normalement dans un bon film qui utilise Jean-Pierre Bacri. Et donc là, en fait, moi, c'est lui, en fait, il m'a un peu sauvé le film, parce que c'est vrai que, par contre, tout ce qu'il y a autour, c'est pas tout le temps super efficace.
Il y a les youtubeurs, les machins.
Ouais, mais en fait, Mister V, je l'ai trouvé plutôt utilisé astucieusement, en fait.
Il est pas mal,
parce que, bah, en faire une sorte de... Ils en font un rappeur, en fait, dans le film, qui est uniquement sur ses...
Mais ils en font un rappeur qui est méprisé par le faux.
Ah oui, totalement. Quoi. Parce qu'en fait, il y a cette espèce...
Et c'est presque visionnaire par rapport à l'émission d'Ardisson. Hein. C'est exactement ce qui se passe dans l'émission.
En plus, ouais. Parce que t'as... En fait, t'as le choc entre la célébrité d'à l'ancienne, donc le dinosaure de la télé, et qui ne comprend pas, voire qui est outré, de voir qu'il y a un mec comme ça qui a... Quoi, le tiers de son âge, maintenant. Et qui a juste en faisant de la merde avec son téléphone, qui a voilà des groupies, qui a plein de gens autour de lui, qui est courtisé encore et encore par tout le showbiz. Et donc t'as cette espèce d'opposition, ça c'était plutôt malin. Après c'est vrai quoi, les persos secondaires, pour une fois je les ai trouvés un peu en dessous. Alors que tu vois dans des trucs comme une image ou déjà dans Le Goût des Autres, je trouve qu'il y a pratiquement pas de persos secondaires. Mais genre dans Comme une image, tu vois les petits personnages sont pas mis à l'écart, tu vois. Alors que dans Place Publique, il y a un moment où le mécanisme, ça les met vraiment sur le côté. Et puis, t'as quand même un truc où je me suis dit, ah, c'est la première fois que je les sens vite fait à côté de la plaque sur un truc. C'est que quand ils veulent vachement dénoncer justement un peu l'arrogance de ces grands bourgeois quand ils vont dans leur maison en province, tout ce qu'ils ont trouvé, c'est le couple de bouseux d'à côté qui ne parle pratiquement pas et qui vient avec un fusil de chasse à la fin. Donc, et ça, ça aurait été plus subtil avant, je pense, dans leur cinéma. Mais voilà, c'est le seul truc.
Je pense aussi.
Sinon, lui, moi, je le trouve au top à chaque fois. Et alors, juste pour finir un truc, j'ai retrouvé, en fait, c'était Dominique Moll qui était invité en même temps qu'Anesh Jaoui.
Ah oui, d'accord.
Donc, pour, à l'époque, Harry, un ami qui vaut du bien, il avait fait peut-être la seule critique recevable au goût des autres, disant que lui, il les trouvait peut-être un peu trop cruel avec le personnage de la femme de Bacri dans le film. C'est la perdante, et en plus la réplique finale, le Shabbat, c'est un truc, ouais, mais la vie c'est pas Disneyland. Il disait ouais, c'est un peu rude, moi je l'aurais fait coucher avec Alain Chabat. Et donc voilà, c'était la vision du happy end de Dominique Moll.
C'était la meilleure fin que Dominique Moll aurait pu faire d'un film, peut-être. Oh, je suis méchant avec Dominique Moll. Mais, et toi, tu voulais ajouter quelque chose, Perrine ?
Non, j'essaie de réfléchir à cette espèce de dark, comment on arrive du coup des autres à Place Publique.
Il y a pour moi un élément, si Perrine, peux ajouter de l'eau à ton moulin. Il y a un élément, c'est que je pense que c'est un couple qui a toujours été à l'affût de ce qui se passe autour d'eux.
Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est exactement ça. C'est que je pense
que ce soit
c'est
smoking, no smoking,
que leur scénario, leur cinéma a aussi évolué avec ce qui était leur quotidien, leur entourage, ce qui était leur réalité aussi. Quand en 2018 ils font Place Publique et que ça fait un petit moment qu'ils traînent dans ce système et qu'ils l'éprouvent bon gré mal gré, c'est quelque chose qui fait partie qui forcément a laissé une empreinte. Donc c'est quelque chose dont ils vont se servir en fait. Donc je pense que vraiment leur cinéma évolue aussi avec ce qui est leur évolution tout simplement personnelle. Où est-ce que eux en sont dans leur vie finalement? Je parle pas au niveau de la qualité, du bien, du moins bien, du traitement des personnages secondaires ou pas. Juste même en termes de sujet, comment on traite le sujet et à quoi on s'intéresse. C'est aussi en gardant des principes toujours un peu similaires et en même temps, on va pas reprocher à des gens de faire à peu près enfin de rester dans une continuité. Enfin, il y a un sens. C'était comment Vincent De Dienne qui disait ça dans son billet sur France Inter quand il va reprocher au boulanger de faire du pain. C'est qu'au bout d'un moment, ça a du sens. Mais je pense qu'il y a une certaine idée de l'évolution de leur secteur, de leur milieu, de leur entourage qui influe indéniablement sur leur cinéma. C'est normal, en fait. C'est normal. C'est juste que c'est des éponges à ce qui se passe autour d'eux.
Et puis, Chris, c'est aussi une éponge, mais aussi, j'aime pas trop utiliser. Et d'ailleurs, c'est le cas de tous les grands comédiens qui ont eu la vista de faire de la promo à la télévision, d'utiliser le personnage public. Il utilisait son personnage public abondamment. D'abord pour casser ce qui se passe devant lui. Enfin, quand il allait chez Ardisson, c'est pour casser les cadres de l'émission. Je me souviens d'une émission de télé où il se posait et il regardait le groupe de musique et il faisait ah, c'est bien, au moins il y a quelqu'un qui a gardé son âme pour dire que l'émission est à chier. C'était nul par ailleurs à l'époque, tu imagines le glas qu'il a lancé. Ça devait être Guillaume Durand, le présentateur. Tu imagines le mec, vraiment, il avait, quand il faisait la mauvaise, je me reconnais en lui, c'est quand il a pas envie d'être quelque part, il le fait savoir, et je pense que c'est un peu nous tous dans ce cas-là, c'est qu'on a envie de...
Je me sens très proche de ce monsieur, moi.
j'aimais ça en lui, et en même temps, dans sa filmo, il n'a pas hésité à faire des trucs particuliers. Je veux dire, Didier, il fallait oser faire ça. Je veux dire, c'est un mec qui n'hésitait pas à faire des paris et surtout à renverser son image. Et je pense que bon, c'est un de ses derniers grands rôles emblématiques. Mais le sens de la fête, il joue littéralement un patron un peu aigri par les charges sociales. Enfin, tout son contraire.
Et largué par tout le côté. Qui est largué aussi par tout le côté. Tout ce qui est téléphone, tout ça. Enfin, tu sais, il amorçait déjà le côté. Je joue avec mon âge, etc. Tu vois.
Il est.
Pour moi, c'est la seule chose bien du sens de la fête, hein, avec peut-être étonnamment Gilles Lelouch. Donc voilà.
Oui, toi, tu n'es pas une.
Ah non, j'aime pas
une
du tout.
Sens de la fête leveuse, mais je me souviens des critiques du sens de la fête, car il y en a eu. Elle parlait d'une espèce de film proto-sarkozyste sur le déclin.
Oui, proto-macroniste à l'époque, hein, quand même. Hein. C'était, tout le monde parlait que c'était
Sorte de. En 2017 déjà ?
Ouais, oui, ça parlait déjà d'un truc macroniste.
Oh la vache, la balle n'est pas passée loin, comme on dit. Et il n'hésitait pas à casser son image en jouant quand même des vieux, parce que j'ai un air de famille, il joue un vieux connard spécifiquement un patron de bar vieux connard, enfin il joue la caricature de lui-même, enfin il le fait assez
après en fait tu comprends.
Oui, mais il peut jouer les vieux.
Vas-y, vas-y.
Non, mais je veux dire, il joue les vieux connards certes, mais justement en fait il est là pour casser aussi là où il va jouer de son personnage. Donc d'un stéréotype, il vient là pour péter d'autres stéréotypes, en fait. De dire à un moment donné, bah ouais, c'est peut-être le vieux connard, c'est peut-être le connard qui fait chier et qui râle, mais peut-être que derrière, il y a quelque chose d'autre, en fait. Et j'aime bien à quel moment il vient redonner de la profondeur et de la densité à des stéréotypes. C'est ça qui est sympathique chez lui aussi. C'est ça qui est un peu amusant et déstabilisant, peut-être.
Je crois que on pourrait y aller longtemps. On pourrait éplucher sa filmo film par film. On pourrait parler de Smoking No Smoking. On pourrait reparler de Cuisine et Dépendance. On pourrait parler des autres films de Bakri Jaoui. On pourrait parler de. Pour moi, Astérix et Cléopâtre. Je veux dire, à mon avis, les meilleurs vannes, c'est Bakri. Hein. Je suis persuadé que c'est lui le génie derrière Astérix et Cléopâtre. Enfin, dont il se défendait. Il disait non, moi, j'ai juste fait quelques vannes. Mais je pense que c'était sa manière modeste de pas s'attribuer.
Non, c'est la belle rencontre, lui et Jamel encore. C'est une belle rencontre.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais du coup, je vais vous demander à chacun d'entre vous, pour vous, quel est ce que j'appelle l'apex de Bakri, c'est-à-dire votre moment Bakri préféré. Et puis, si vous avez envie de conseiller un Bakri un peu plus méconnu, si vous en avez un en poche, si vous en avez un en stock. Yérim, tu veux commencer ?
Ok. Je ne vais pas être original, mais c'est choix perso, parce que dans ma mémoire, c'est là où je me suis dit « Ah ok, c'est... » Ben lui, c'est, je vais le retenir, quoi. C'est sérieux et tout. Donc c'est un air de famille parce que donc outre le fait qu'il a évidemment plein de répliques qui font mouche et tout, je trouve que c'est un de ceux avec le goût des autres où il est le plus vraiment le plus touchant. C'est-à-dire qu'au début tu le vois pour le coup, il a vraiment le côté chiant et détestable dans tout le début du film, parce que tu dis qu'est-ce que c'est que ce plouc. En plus, il est désagréable. Il y a rien qui va. Et quand tu le découvres dans le cadre familial et que tu crames que évidemment, c'est lui qui est méprisé par l'intégralité du reste de sa famille, que c'est lui le cliché du canard boiteux d'une canard boiteux dans une famille comme ça, et tout ce qui se prend dans la gueule, mais en justement, lui, personne va lui gueuler dessus, par exemple, personne va l'insulter, mais alors il va se manger des réflexions super mesquines et super vicelardes, en fait. Et du coup, ouais, j'ai bien aimé. Puis même pareil, j'avais kiffé aussi la manière de le rendre de le rendre sympathique, mais pas uniquement dans le côté regardez, en fait, au fond de lui, il est triste ou quoi. Mais aussi dans le côté que c'est pas un vrai méchant. Et ça, en fait, tu le comprends assez vite dans le film, que c'est une espèce de carapace d'énorme beauf qui s'est foutu par-dessus parce que c'est son seul moyen d'exister, d'avoir un peu d'autorité. Pareil, quand il essaie de jouer le patron super énervé contre Daroussin, qui est donc le serveur, et que tu comprends direct qu'il fait ça uniquement parce que c'est la seule personne dans sa vie sur laquelle il a un ascendant, alors que dans sa famille, c'est juste une merde. Et puis en plus, t'as l'outrance de certains dialogues, c'est-à-dire que quand il raconte son rêve sans comprendre à quel point c'est un truc de névrosé totale, c'est-à-dire que à un moment, il explique plus ou moins qu'il a fait un rêve où ils étaient tous à table et il arrive et il tape sa mère avec un poisson et genre il a même pas ce truc et personne autour de la table a ce truc de se dire oui, ça veut quand même dire quelque chose là, enfin quand c'est à ce niveau-là.
Non, je me souviens de la réponse de la mère qui est genre, mais c'est génial, ça veut dire que ça.
Ouais, tu vas gagner de l'argent. Meuf, donc voilà, c'était des trucs comme ça qui m'avaient plu.
Ça aurait pu être dit dans certaines familles que je connais.
Ouais, partout, je pense. Mais ouais, ça et l'espèce de truc très enfantin qui font aussi pour l'humaniser avec le monde extérieur, parce que ils étaient encore dans. Ça fait très théâtre filmé. Hein, tout se passe dans le bar-restaurant, sauf le moment où il va essayer de renouer avec son ex. Et là, en fait, il se fait aider, avec de gros guillemets, par une bande de gamins qui sont en bas d'un bâtiment. Et donc lui, il l'appelle, je sais plus le nom de son ex. Et en fait, les gamins appellent en même temps parce que eux, ça les fait marrer. Et donc, t'as une sorte d'union bizarre de cassos, mais à des niveaux très différents dans leur âge et dans leur mode de vie. Et donc, ouais, ça, j'ai trouvé ça marrant. Parce que forcément, je devais être tellement jeune et con que je me suis identifié plus... au gamin qui gueulait en fait avec lui. Et en gros, après, en truc peut-être un peu moins connu, Kennedy et moi, qui est l'adaptation d'un bouquin. Alors celui-là, pour le coup, il est peut-être un peu moins drôle. C'est le portrait d'un mec qui est en pleine crise de la quarantaine, voire en pleine dépression. Il est pas heureux dans sa vie de couple. Alors, il y a un truc très amoral, mais qu'on comprend en voyant le personnage, c'est quelqu'un qui méprise ses enfants. C'est-à-dire qu'il y a la voix off, en fait, parce que vu que c'est l'adaptation d'un bouquin, ils ont foutu la narration, donc c'est Bakri en voix off, enfin le personnage, pendant tout le film. Et je sais plus, mais il y a un moment où il y a cette phrase, « Je voulais un fils unique, et j'ai eu deux crétins ». Et donc là, tu te dis, bon, c'est merveilleux. Et pareil, il a tout un truc... Tout un clash avec un dentiste, enfin c'est assez incroyable. Et donc ouais, il est c'est un bon moyen, parce que je voulais aussi sortir du Bakri Jaoui, tu vois, pour celui qui serait moins connu. Et donc celui-là, ouais, est plutôt bien foutu. Voilà.
Et toi, Perrine, est-ce que tu as toi aussi un Apex? Est-ce que c'est quoi ton Bakri préféré? Et puis peut-être une recommandation
plus obscur.
J'allais dire une sortie de piste, mais c'est pas l'idée. C'est plutôt un truc obscur.
Mais moi, c'est.
Non, en même temps, il n'y a rien d'obscur. Mais...
Non, mais voilà. Plus, moins connu, peut-être moins évidente. Moi, le film qui m'a fait vraiment connaître, identifier, reconnaître totalement Bakri, c'était Didier, en fait. C'était Alain Chabat. Et a posteriori, en fait, ce que j'aime bien maintenant, c'est que je me rends compte, c'était un peu la rencontre de deux univers. Bon, c'est deux copains aussi, hein, Chabat et Bakri, mais c'est deux univers, c'est-à-dire l'univers un peu fantasque, un peu dingo d'Alain Chabat, un peu non-sens. Enfin, c'est quand même l'histoire d'un chien qui devient un mec et qui devient footballeur. Bon, OK. Pourquoi pas? Et à côté, on a Bakri qui joue le bougon éternel, etc. Mais ce qui était formidable, c'était que finalement, c'est quand même quasiment un film, même s'il y a des personnages autres et secondaires, c'est quasiment un film monologue, parce que Didier ne s'exprime quasiment pas, Alain Chabat s'exprime quasiment pas, à part par des gestes et des mimiques, mais son vocabulaire est quand même relativement limité. Et donc, c'est quasiment Bakri qui parle tout seul, la plupart du temps, donc ça devient une espèce d'immense introspection. Et ce que je trouve assez génial, c'est au-delà de la qualité des dialogues et que Bakri sert de manière prodigieuse et qui nous a tous appris qu'il fallait pas sentir le cul des femmes. Voilà, ça c'est.
Ah, même des gens, même des gens.
Même des gens en général, mais bon, des femmes en particulier dans le cas de comment dire de Didier et que bon, sauf si elle était d'accord, mais il fallait voir avec elle. Ça c'est au-delà de ça, c'est que j'ai adoré ce personnage qui par la rencontre inattendue va d'un seul coup réenchanter sa vie. J'aime bien, moi, ces histoires de personnages un peu ternis, un peu abîmés par le temps, par l'ennui, par les problèmes, qui, d'un seul coup, par un événement extérieur, vont se réenchanter, en fait. Et c'est son cas, en fait. C'est un personnage qui, d'un seul coup, croit à la beauté des choses, croit au miracle, regarde son quotidien différemment. Et ça m'a... Ou son métier, en l'occurrence, d'agent sportif. Et ça m'a complètement. Enfin, ça reste encore un film que je trouve hilarant au demeurant, mais en plus particulièrement doux et joli et presque comme un conte. Donc j'aime énormément Didier. Et le film peut-être moins connu, c'est La Baule les Pins de Diane Curis, qui est un film. Pour le coup, il a un rôle secondaire dans La Baule les Pins. C'est l'histoire de deux petites filles dont les parents, on comprend au début, qu'ils sont en train de divorcer et ça se passe pas merveilleusement bien. Ça se passe dans les années 50, ce qui est un milieu, une période où le divorce n'est quand même pas quelque chose de très classique. Donc c'est pas facile à traiter et les gamines sont en souffrance et elles vont se réfugier chez l'oncle et leur tante et lui il joue le tonton Léon. Qui est un gros lourd, il n'y a pas d'autre mot, hein. C'est un peu un gros lourd, un peu miso sur les bords aussi, mais particulièrement rigolo. Et en fait, c'est ça, c'est ce personnage. Alors tout le monde est très bien. Nathalie Baye, par exemple, dans le film, est vraiment géniale aussi. Mais ce qui est très beau, c'est ce personnage-là de Léon qui, en fait, d'un seul coup, va amener un peu de douceur malgré sa bouffitude incarnée. Va ramener un petit peu de douceur et un peu de légèreté dans le quotidien de ces petites filles qui souffrent un petit peu de la situation de parentale. Et ça, je trouve que dedans, il a une magie, il a un regard, il a... Parce que c'est pas toujours facile d'avoir un sourire de Bakri, mais là, il a un sourire réparateur qui est fabuleux, absolument fabuleux.
Écoute, c'est des bons choix auxquels je m'attendais pas en fait que tu dis ça. Moi je vous ai dit j'adore le goût des autres. Je voulais juste en placer
évidemment
une.
Le goût des autres, hein, mais c'est au-dessus.
Bon moi le goût des autres c'est vraiment le bon ouais, voilà c'est au-delà de tout mais je veux juste en placer une et je suis sûr que alors Bakri il aurait pas voulu qu'on fasse toute une émission dessus. J'aurais fait arrêtez les conneries.
Qu'est-ce qu'il y a
c'est pas possible. Enfin voilà on va pas je vais pas l'imiter là parce que je suis très mauvais en imitation faut l'avouer. Juste en placer une sur Vladimir Yordanov, qui est quand même son partenaire dans de multiples films, notamment dans Le Goût des Autres, notamment dans Un air de famille, qui est décédé en décembre 2020. Mmh. Et aussi à Caroline Cellier, je me rends compte, qui est décédée... qui est décédée en... lui, je crois que c'est elle qui... Pardon, c'est Caroline Cellier qui est décédée en décembre et Vladimir Yordanov en octobre. Donc, et Caroline Cellier qui était la... Je me suis rendu compte, c'était la maîtresse de Didier. Et donc c'est deux autres grands comédiens de son entourage quand même. Vladimir Yordanov qui était vraiment un homme de théâtre et Caroline Cellier qui est quand même quelques grands classiques du cinéma, enfin en tout cas qui m'ont bercé mon enfance. Et pour moi le film le plus atypique de Bakri, c'est un peu compliqué parce que c'est un film où je suis rentré en me disant ah je vais m'éclater, ça a l'air d'être mortel et je suis sorti pas dépité mais du genre waouh dans quelle noirceur j'ai été emmené. C'est un film de Michel Leclerc quand même qui est aussi un cadre de la comédie. C'est un film qui s'appelle La vie très privée de Monsieur Sim et c'est une adaptation d'un bouquin et la première scène c'est Bakri dans un avion. Il parle à la personne à côté de lui et la personne à côté de lui décède dans l'avion d'ennui. Et en fait, Et en fait, Bakri est le mec littéralement le plus chiant du monde, en fait. Et il est représentant, je crois qu'il doit faire des trucs, des tournées pour les brosses à dents ou je sais plus ce qu'il fait, enfin, ou brosses à cheveux. Et il est représentant là-dedans et il fait avec dans sa bagnole. Et en fait, il est en train de tomber en dépression en parlant à son GPS. En fait, le GPS, tu parlais de jouer à la comédie avec Alain Chabat qui joue un chien. Là, c'est le GPS. Et c'est extraordinaire. C'est vraiment un film déroutant. D'abord, parce qu'on est habitué au film Michel Leclerc. On y va aussi en se disant, ah, on va bien s'éclater. Le nom des gens, c'est très... Enfin, voilà, un truc... Et là, pas du tout. C'est à la fois du rire, mais c'est du rire très, très noir. Et à la fin avec quelques twists assez inattendus, mais je vous le dis, faut que je vous le dise très franchement, c'est l'histoire d'un mec qui est en train de tomber en dépression face à une machine. Et ça préfigure, c'était le prototype de ce genre de comédie où les personnes tombent amoureuses des frigos ou ce genre de comédie moderne. Vraiment, si vous avez l'occasion de voir La vie très privée de Monsieur Sim, ça vaut le coup. C'est juste, voilà, il faut être un petit peu armé. C'est pas un film de, voilà, c'est pas une, je vous vends pas une comédie ultra fun, quoi. Mais il y a énormément de matériel, par contre, pour Bakri, qui est pas en roue libre, au contraire, il est très contenu, mais il est très contenu dans la comédie dramatique, quoi. C'est vraiment un moment extraordinaire. Donc voilà, je vous recommande La vie très privée de Monsieur Sim, un film qui a étonnamment pas marché, mais en même temps avec un pitch comme ça, ouais. J'ai envie de dire, il fallait jouer l'audace, quoi.
Je l'avais pas vu, bah tiens, tu m'as donné.
Ouais, pareil.
Ah non, mais ça. Vraiment. Première scène, le mec il meurt.
Mais c'est ce qui est génial pour.
Genre même les Monty Python, ils ont fait le blague le plus drôle du monde. Là, c'est le mec le plus chiant.
Mais en plus, c'était le syndrome. C'était dans Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Dès que le mec part en flashback, donc il raconte son histoire tragique, la personne à côté de lui se tue en fait. T'avais un gag comme ça. Mais sauf que là, c'était outrancier. Ouais, tu vois. Mais il y avait clairement ça. Il y en a un qui se pend, l'autre qui veut s'immoler. Enfin, c'est n'importe quoi.
Oui, il y en a un, il avale des sables ou je sais pas quoi, c'était débile.
Ah, sinon, je voulais rajouter un truc qui n'a aucun rapport avec son cinéma, mais que j'ai.
Mais exactement. Tu parles du rap.
Bah,
je savais, merci, je comptais sur toi.
C'était dans le privé, c'était un grand fan de rap, mais il était vachement calé. Plutôt sur les trucs à l'ancienne, tu vois, il ne courait pas forcément après la dernière tendance.
West Coast, en plus,
ouais, il était très bien qui allait sur très pédré, donc ouais, c'est tellement...
Il était très J-Funk, même, ben, j'ai envie de dire. Je pense qu'il écoutait ça dans la
bagnole. Ouais, je pense. Ben, surtout vu sa génération, en fait. Et après, alors, dans son cinéma, c'était très discret, mais de mémoire, il y a au moins deux passages. Il y en a un, ben, il est récent dans ma tête, c'est Place Publique, parce que dès l'intro, il met... La rage du peuple de Kenny Arcana. Et ce qui fait que pendant tout le générique de début, t'as juste son perso, donc de parodie d'Ardisson, plus son chauffeur, qui fume un joint devant leur voiture, en bougeant leur tête sur ce son-là. Et, dans Comme une image, Agnès Jaoui va, le personnage d'Agnès Jaoui va à une fête de jeunes. Et là, justement, ça rejoint le côté West Coast parce qu'il passe My Block remix de Tupac. Et pareil, enfin, quand t'avais, attends, il y a ça plus Jump Around. Et pareil, en fait, vu qu'au moment où je regarde comme une image, j'étais pas au courant, en fait, celui-là, je l'ai vu en salle. J'étais pas du tout au courant, en fait, que Bakri, il avait ce truc-là. Donc moi, j'étais tout content, mais pour moi, c'était presque absurde. Je m'étais dit, ouais, ça doit être, je sais pas, un stagiaire, tu sais, qui a mis ça quand on a demandé, ouais, ils écoutent quoi, les jeunes, tu vois. Et en fait, non, c'était clairement une volonté, donc ouais, voilà.
Bah, en même temps, quand on se dit que c'est quelqu'un qui a un tel amoureux des mots et du sens des mots et de la rythmique des mots, c'est pas si étonnant que cette personne aime le rap.
J'aime quand tu parles de rap comme ça.
De temps en temps.
T'as vu ça? Ouais, alors que je suis la plus grande buse de l'histoire de la planète en rap. Donc, je compte que sur toi.
Mais c'est vrai qu'il était émouvant quand il en parlait, parce qu'en plus, c'était en général la dernière question, genre, au JT, quand il était invité au JT, ils disent, vous aimez le rap? Et il avait une manière de répondre du genre « Ouais, ouais, j'aime le rap, et alors ?»
Et alors ça te défrise ? Ok,
genre,
très bien.
Vraiment, il répondait ça comme ça. « Ouais, j'aime bien, surtout Snoop, voilà. » Bon, je vous remercie tous les deux d'avoir participé et d'avoir mis un peu de lumière sur la carrière de Jean-Pierre Bacri, qui assurément va nous manquer, hein, parce que c'était vraiment un grand, grand comédien, un grand auteur. Je remercie la technique pour ce montage distancié, et je pense que la prochaine fois, on se verra en vrai. Je croise les doigts. Pour nous retrouver, c'est We Love MDR sur Apple Podcasts et toutes les applis dédiées. Merci donc aux réalisateurs qui ont bien mixé nos voix, j'espère, je croise les doigts. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires, d'en parler autour de vous. Et donc, la prochaine fois, on se retrouve, on va être en vrai studio. Donc, j'ai hâte de reprendre des petites habitudes.
Ah, tu me fais grave penser aux mecs des films d'horreur qui disent « je reviens tout de suite » et qui se font tuer juste après. Vraiment, si t'as dit beaucoup trop de fois, on sera forcément en studio comme avant.
Hey, alors, je te rappelle que tu parles à une personne qui a dit hey, on se revoit le 15 décembre dans la salle.
C'est ce que j'allais dire.
Hey, mais vraiment trop con. Hein. Et tu sais quoi, il y a le mec, tu sais, la boussole qui indique toujours le sud.
Non, mais j'avoue, on croise les doigts.
Le gars qui m'avait dit. Non, mais le gars qui m'avait dit, quand j'avais dit non, je pense pas que ça rouvrira, il m'a dit oh, sois pas négatif, bien sûr que si, ben voilà, ça tombe.
Non, mais moi j'y croyais en plus, hein. Moi j'y croyais vraiment.
J'aime ta passion, j'aime ton envie, j'aime ta croyance.
Maintenant, whatever works, quoi. Maintenant, c'est. J'y crois plus. En fait, je pense que OSS 4 va sortir avant OSS 3 maintenant. On vous embrasse très fort et on vous dit à très, très, très bientôt. Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.